Chers frères et sœurs, voilà, nous avons la joie d'avoir parmi nous des servants d'hôtel et des servantes de Roy Malmaison, qui sont là pour le week-end, ainsi que des scouts et des louvettes. Eh bien, tous ensemble, nous nous tournons vers le Seigneur, lui qui est la lumière de la vie, comme il nous le manifestera dans l'Évangile. Croyons que le Seigneur est mort et ressuscité pour que nous aussi, nous participions aussi à sa vie, à sa résurrection. Et pour cela, entrons dans cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant les anges et les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment : « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui, et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins, et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes « Qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de la synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talita cum, ce qui signifie jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur, et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, ce sont des récits pathétiques que nous entendons ce matin dans la parole de Dieu. Je crois qu'il en était de même dimanche dernier, si vous vous souvenez, lors de la tempête apaisée par Jésus, lorsque Jésus se retourne vers ses disciples et leur dit « Pourquoi vous avez peur, gens de peu de foi ?» Gens de peu de foi. C'était ses plus proches, ceux qui étaient avec lui, ceux qui normalement auraient dû avoir beaucoup de foi. Eh bien non. Et aujourd'hui, on assiste à des scènes pathétiques, comme je le disais, où des gens, eh bien, donnent leur confiance, leur foi. La motivation profonde, c'est quand même la peur de la mort. Je crois que c'est ça. Or, Dieu ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il a créé l'homme pour une existence impérissable parce qu'il a fait de l'homme une image de ce qu'il est en lui-même. Ainsi parle l'auteur inspiré du livre de la sagesse. Ce sont les premiers mots de la parole de Dieu que nous avons entendue dans le livre de la sagesse. Et si le Seigneur est l'auteur de la vie impérissable et qu'il ne peut se résoudre à voir mourir les siens, qui donc détient ce pouvoir sur la mort? On a bien entendu que c'est par la jalousie que la mort est entrée par le monde, volonté du diable. Puisque ce Dieu est en lui-même, demeure pour nous un mystère. De quelle mort et de quelle existence impérissable s'agit-il ici? À cette question, l'Église enseigne que nous avons le devoir de saisir et de comprendre quelque chose de Dieu dans sa parole, son action et les effets de ceci. Or, la parole de Dieu de ce jour nous donne de méditer 3 actions sans équivoque de Dieu, 3 réponses, miracles, guérisons, à des démarches de confiance. Première réalité, à une pauvre femme épuisée après tant d'années de maladie, donc bien malade, Jésus rend la santé et le bonheur de vivre. À une jeune fille inerte et sans vie, il redonne vie et en même temps une joie immense à ses parents et à sa famille. Dans ces 2 situations, ce qui a poussé les personnes à faire une démarche pour obtenir le miracle, la guérison, c'est bien l'urgence, la douleur, l'angoisse et la peur de la mort et de la séparation. Mais entre ce premier désir naturel de vivre et la guérison obtenue, il y a cet engagement personnel de rencontrer et de toucher Jésus, engagement motivé pour obtenir la santé, et qui a pour conséquence une confession de foi explicite. On voit bien, lorsque les personnes arrivent, elles se jettent aux pieds de Jésus, font la demande, c'est un engagement du corps dans cette humilité. La démarche de la pauvre femme et celle de Jaïr, chef de la synagogue, se manifeste par le toucher et des mots, par lesquels il recherche et demande à Jésus la guérison. Ce sont deux manières de dialogue avec le Christ dans la foi. Le toucher, la parole. La foi ne se réduit donc pas à l'adhésion de l'intelligence et abandon de la volonté. La foi n'est pas d'abord l'assentiment, l'adhésion à un ensemble de croyances. Elle est relation avec Dieu, de personne à personne, mettant en jeu l'intelligence, l'affectivité et la volonté. Elle est la prière dans laquelle Dieu parle et l'homme lui répond. La foi est l'acte de se confier au Christ et de suivre le chemin salutaire qu'il a tracé. Pourquoi Jésus donne-t-il de l'importance au geste de cette femme qui ne veut pas se faire remarquer et touche à peine la frange de son manteau que Jésus porte? Il faut savoir que la loi de Moïse déclarait impure la femme qui avait des paires de sang, et celui qui la touchait devenait impur. Voilà pourquoi la femme touche le bord de son vêtement en cachette, profitant de la foule, et pourquoi elle se sent si coupable et si pleine de crainte et tremblante quand on la découvre. Car elle met en cause la personne qu'elle touche. Et c'est la seule raison pour laquelle Jésus fait savoir ce qui se passe, pour déclarer publiquement devant tout le monde que d'avoir été touché par cette femme ne fait pas de lui un homme impur, et que la foi va au-delà de ce qui est pur et impur selon la loi. Ainsi publiquement, le Sauveur dit à celle qui lui a volé le miracle, « Va en paix, ta foi t'a sauvé ». Comme nous le voyons, ce n'est pas tant sur les deux miracles que porte l'attention, mais sur la foi de ceux qui le demandent. La foi est indispensable au miracle. Jésus ne fait pas de miracle pour forcer à tout prix le cœur de l'homme. Les miracles sont des signes qui servent la foi, mais ils ne diminuent pas le courage de croire. Les miracles sont un don, une réponse à la sincérité et à la pureté du cœur de l'homme qui cherche le Seigneur et mendie la guérison du corps et de l'âme. Comme premier enseignement, nous sommes encouragés à oser nous adresser à Jésus avec foi, dans une démarche de confiance, d'humilité, quelle que soit la simplicité ou la gravité de la demande, à entretenir une vie de contact avec l'humanité de Jésus par les moyens qui s'offrent à nous, qu'il nous offre, c'est-à-dire une vie sacramentelle et de prière. Et la vie sacramentelle exige une relation d'intimité avec Jésus. Dieu aime la simplicité. Je vous ai annoncé trois guérisons, trois miracles. J'en ai mentionné que deux. La guérison de la femme et celle de la fille de Jaïr, le centurion. Le troisième miracle, peut-être l'avez-vous beaucoup moins perçu. Est présenté sous forme d'un ex voto. Un ex voto, c'est un acte de reconnaissance pour une grâce obtenue. Et cette guérison concerne une personne, le psalmiste. Évidemment, il faudrait réentendre le psaume, on n'en a entendu qu'une partie. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri, dit-il. Que lui est-il arrivé? Trois étapes dans sa vie. Issu d'une famille princière, il a connu une brillante ascension sociale et humaine. Puis il se trouve frappé d'une épreuve fulgurante, violente, et devant la mort, il connaît une renaissance spirituelle et un redressement humain complètement imprévu. Bien, écoutons son histoire riche d'enseignements. Il définit la première partie de sa vie par ces mots « Dans ta bonté, Seigneur, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne. » Au sommet de sa carrière, avec le pouvoir, le savoir et la richesse, il s'est bâti une demeure fortifiée sur la hauteur, sur sa montagne, et une fois installé, il déclare « Dans mon bonheur, je disais, rien jamais ne m'ébranlera. » Voilà son péché de présomption, d'un égocentrisme imaginaire. Je suis comme un dieu. Il s'agit d'un monologue. Moi, je me disais. Il s'immobilise dans le temps et l'espace. Rien jamais ne m'ébranlera. Il s'identifie à la stabilité du rocher, ma puissante montagne. Il est sa seule référence. Ce faisant, il s'établit résolument dans l'horizontalité. Il oublie celui qui est au-dessus de lui, Dieu, et il ignore le reste des hommes au-dessous de lui. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme souvent, il arrive ce qui n'est pas prévu. Il va subir la loi de la nature, selon le célèbre adage, « Dieu pardonne toujours, les hommes quelquefois, la nature jamais ». S'étant coupé de toute relation, il s'est enfermé dans son propre piège, lui qui se croyait d'une intelligence et d'une volonté supérieure, il sombre dans une dépression mortelle. Il devient son propre épouvantail. Il dit « Je descendais dans la fosse et la nuit obscure ». S'étant coupé de Dieu, Dieu s'était retiré de lui. Tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. Il deviendra la risée des hommes qu'il méprisait. De la hauteur de sa puissante montagne, il se trouve projeté dans la poussière de l'abîme. Sa suffisance, sa sécurité, son pouvoir ne lui sont plus d'aucune utilité. Là, il faut se souvenir de la mise en garde de saint Paul aux Corinthiens. Les mains fermées sont l'expression d'un cœur endurci. Décentrez-vous de vous-même, centrez-vous sur le Christ, lui qui de riche est devenu pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté. Bien, comment cet homme va-t-il sortir de son monologue, de son horizontalité? Il ne passe pas du monologue au dialogue avec Dieu. Il le fait que par une rupture de l'horizontalité de son moi, et cette rupture, c'est l'épreuve psychique qu'il rencontre, l'épreuve psychique de la rencontre avec la verticalité, c'est-à-dire avec la transcendance. Dans la verticalité, il y a un point bas et un point haut. Le choc le jette humainement par terre. Épreuve salutaire. Là, il se souvient de Dieu, son bienfaiteur. « Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. » Et il va se livrer à un véritable chantage, marchandage avec Dieu. C'est au verset 10 que nous n'avons pas entendu, mais c'est bon de l'entendre. « Que gagnes-tu, Seigneur, à mon sang, à ma descente dans la tombe ? La poussière te loue-t-elle ? » Annonce-t-elle la vérité, c'est-à-dire si jamais je meurs, tu as tout à perdre, tu n'auras personne pour te louer, or je suis là pour ça. Et enfin, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre, tu as changé mon deuil en une danse. La danse est quelque chose d'extraordinaire, elle exprime la reconnaissance, elle a cette faculté de faire sortir de l'immobilisme pour réinvestir l'espace et le temps par la joie. Le psalmiste est passé donc de l'épreuve de la mort de l'âme à la résurrection, à la vie. Ainsi, le Christ Jésus, par l'intermédiaire de la prière, l'intercession de la prière de Jaïr, fait passer la jeune fille, sa fille, de la mort à la vie. Le Christ lui a saisi la main et lui a dit « Talita cum » et il l'a fait se relever. C'est une véritable résurrection. Pour conclure, quelle leçon spirituelle pour nous? Le psalmiste se prenait pour une montagne. L'humiliation l'a plongé dans la nuit et lui a fait manger la poussière. Mais par le repentir et la confiance, Dieu le rétablit dans la lumière divine, la seule vraie gloire. Alors pour nous-mêmes, que nous soyons dans la situation du psalmiste, de Jaïr pour sa fille, ou encore de la pauvre femme, tout simplement atteint d'un mal physique, psychique, spirituel, prosternons-nous devant le Seigneur comme nous le ferons au moment de la communion, afin de le toucher et de nous laisser toucher et de crier avec foi « Seigneur, Seigneur Jésus, dis-moi une parole et je serai guéri. » Ainsi soit-il.